Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Septembre 2023. Dans la cour du lycée Herzliya, dans le centre-ville de Tel Aviv, des centaines de jeunes se massent. Le directeur général de l'établissement a pourtant interdit leur manifestation annoncée depuis quelques semaines. Le proviseur, lui, a démissionné le matin même en soutien à ses élèves. Si le rassemblement crée tous ces remous, c'est que les élèves de Herzliya et d'autres lycées de la ville s'apprêtent à annoncer qu'ils refusent de faire leur service militaire obligatoire au sein de l'armée israélienne. Une jeune fille de 17 ans, les traits encore enfantins, s'empare d'un micro et lit la lettre signée par 280 élèves.
Nous choisissons de dire non à la dictature en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Et nous refusons de faire notre service militaire. Un gouvernement qui détruit le système judiciaire est un gouvernement que nous n'acceptons pas de servir. Une armée qui conquiert une autre nation est une armée pour laquelle nous ne voulons pas combattre.
Au pied de l'estrade, Tal Mitnik, 17 ans, Ella Kaidar, 16 ans, Ido Elam, 17 ans, et Sophia Orr, 18 ans, connaissent par cœur chaque mot de la lettre. Ils ont contribué à l'écrire ensemble. La pression de l'organisation de l'événement commence à retomber. Ils ont réussi. La foule écoute. La presse et la télévision sont là. Quelques perturbateurs d'extrême droite aussi, dans un coin. Et là se dit qu'ils ont l'air un peu ridicules, ces trois ou quatre excités qui agitent leur drapeau israélien en hurlant. Personne ne prête attention à eux. La journée est sans contexte une grande victoire pour ceux qu'on appelle en Israël les refusniks. Et là, Ido, Tal, Sophia et les autres voient que la société est, peut-être, enfin prête à changer. Depuis des mois, les manifestations contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou envahissent les rues de Tel Aviv, rendant soudainement les idées de la gauche israélienne plus audibles. Ce 3 septembre, personne n'imagine que tout cela s'apprête à s'effondrer. Mars 2024. 6 mois après la manifestation du lycée d'Herzliya et 5 après l'attaque du Hamas et le début des bombardements israéliens à Gaza, Ella Kaidar, 17 ans désormais, soupire. Ses boucles brunes lui tombent sur les yeux et ses Doc Martens dépassent de la table. Elle voudrait exprimer à quel point la société israélienne tourne autour de l'armée, à quel point les enfants grandissent pour devenir des soldats. Mais elle n'a presque pas besoin de le dire tant, derrière elle sur le trottoir de Tel Aviv, on ne cesse de voir des jeunes en uniforme militaire passer, fusils semi-automatiques en bandoulière. En Israël, à partir de 16 ans, on leur demande ce qu'ils vont faire à l'armée quand ils auront 18 ans. Et toute leur vie ensuite, on leur demande ce qu'ils ont fait à l'armée, dans les soirées où l'on rencontre des amis d'amis, lors d'entretiens d'embauche et même à des premiers rendez-vous amoureux. En Israël, parler du service militaire est une façon de faire connaissance. Là-bas, la procédure commence à 16 ans. Les jeunes passent des tests pour savoir dans quelle unité ils pourraient servir. Pour certains, c'est une façon aussi de se placer pour leur future carrière professionnelle. C'est un véritable rite de passage obligatoire. 2 ans pour les filles, 3 pour les garçons, que personne ne remet en question. Elle précise que la moitié des gens ne finissent pas leur service ou sont exemptés, mais que ce service reste pourtant culturellement primordial. Certaines communautés sont même dispensées d'office, comme les Palestiniens citoyens d'Israël, les Juifs ultra-orthodoxes, les femmes religieuses, enceintes ou mères. le plus fréquent reste encore d'être exempté pour des problèmes de santé. Mais socialement, s'il est pardonnable de faire jouer un mal de dos chronique pour contourner ses années à l'armée, il n'en est pas de même pour ceux qui refusent tout bonnement de s'engager. Sujet tabou, l'armée ne communique aucun chiffre sur ses refus SNIC. Pour eux, les conséquences sont lourdes et les perspectives d'emploi peuvent en être affectées. Les employeurs continuant à demander aux candidats ce qu'ils ont fait à l'armée, même si la loi l'interdit. Mais surtout, les refus SNIC doivent aussi passer par une autre étape, la prison.
Depuis le 7 octobre, leur position au sein de la société israélienne paraît inaudible. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux. Les refuseniks, comme on appelle ces Israéliens, à peine majeurs, qui préfèrent aller en prison plutôt que d'accepter de faire leur service militaire obligatoire. Eux sont persuadés de représenter le seul avenir possible du pays. Pour cet article, Hélène Coutard, journaliste à Society, est partie à leur rencontre. Un article dont vous venez d'entendre les premières pages, lu par Mohamed Ben Safi.
Au long, la piste audio des grands récits de Society.
Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui vous invite à emprunter les portes dérobées des articles du magazine Society. Vous venez d'écouter les premiers paragraphes du reportage publié dans le numéro 227 de Society, actuellement en kiosque jusqu'au 10 avril 2024. Un reportage titré « Avec les refuseniks de Tel Aviv », un reportage qui suit ces jeunes majeurs israéliens préférant la prison plutôt que d'aller honorer leur service militaire obligatoire. Elle a écrit cet article de 5 pages, elle est face à moi pour parler de tout ça. Bienvenue à toi, Hélène Coutard. Bonjour.
Bonjour.
Il y a une période qui est décrite dans l'article, d'abord 2023, fin 2023, et puis il y a les attaques du Hamas le 7 octobre. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est lancé tout ça ?
Alors, l'article commence en effet par une manifestation en septembre 2023, qui est le moment où je me suis à nouveau intéressée au sujet après quelques années à le regarder un peu de loin.
C'était quand la première fois que tu avais entendu parler de
ça ? Je pense que c'était il y a quelques années, à l'époque où on parlait d'objecteurs de conscience, et qu'il y en avait de temps en temps un qui passait le comité, dont on parlera plus tard. Et donc j'avais regardé ça un peu de loin, et en septembre 2023, et puis même au cours de l'année 2023 avant ça, c'est devenu un phénomène beaucoup plus présent, dont on a parlé beaucoup plus en Israël et à l'étranger. Et il y a eu cette fameuse manifestation, avec quand même quelques centaines, voire milliers de personnes, et une lettre signée par plus de 280 lycéens, qui est quand même une des plus grosses démonstrations sur le sujet qui a eu depuis pas mal de temps. Et le 7 octobre, il y a eu l'attaque du Hamas, et on en a reparlé quelques mois après en se demandant si ces jeunes gens étaient toujours présents dans le débat public, est-ce qu'ils avaient changé d'avis, est-ce qu'ils existaient toujours, et on a commencé à se dire que ce serait intéressant d'aller les voir.
Tu parles de plusieurs jeunes, de Tal, Ella, Ido, Sophia. Est-ce que c'est déjà de cette manifestation-là qu'ils surgissent comme personnages importants ou médiatiques, tout du moins ?
Oui, un peu noyés dans la masse, d'abord, parce qu'il y en a au moins une dizaine d'autres dont les articles peuvent parler. Et Tal Mitnick va assez vite sortir du lot, mais un peu plus tard, plutôt fin 2023, quand il va devenir le premier refusnik officiel, c'est-à-dire le premier à aller en prison pour son refus. C'est lui le premier, tout simplement, parce que c'est lui qui avait déjà 18 ans. Donc c'est juste une question de chronologie des âges.
Le premier post-attaque du Hamas.
Ouais.
Tu les contactes quand, ces jeunes-là ? Est-ce que c'est d'ailleurs c'est par eux que tu commences les contacts ?
D'abord, j'essaie de lire tout ce que je trouve sur eux, et plus sur Tal Mitnick, parce que c'est la porte d'entrée du sujet. J'essaie de savoir quand est-ce qu'il est en prison, quand est-ce qu'il va en sortir, quand est-ce qu'il va y retourner, pour voir s'il y a des moyens de le contacter un peu entre deux séjours en prison.
Parce qu'en prison, c'est impossible.
En prison, c'est compliqué. Au début, je ne sais pas trop si c'est impossible ou pas, donc je vais aussi un peu essayer de voir s'il n'y a pas moyen de lui écrire en prison, etc. Et en fait, assez vite, via les réseaux sociaux de Tal Mitnick, je tombe sur Mezarvot. C'est une organisation qui regroupe un peu ces gens-là, essaie d'organiser un peu l'effort et va aussi promouvoir un peu ces jeunes pour que les médias en parlent.
Parce que c'est un sujet qui reste un peu sous le tapis en Israël ou pas ?
Déjà avant le 7 octobre, c'est un sujet qui revient un peu de temps en temps à chaque conflit, mais à chaque fois c'est très peu entendable dans la société israélienne de dire qu'on ne veut pas faire l'armée pour des raisons politiques. Donc parfois il y a une lettre ouverte de jeunes, mais ça passe assez vite sous le tapis. En plus ils sont un peu discrédités comme étant soit un peu instables mentalement, soit tout simplement un peu immatures et un peu jeunes. Donc ça n'a jamais pris cette ampleur jusqu'à présent. En fait, il y a deux éléments qui sont un peu pivots, c'est-à-dire qu'en début 2023, il y a le début des manifestations contre la réforme judiciaire de Netanyahou, qui en fait va un peu gauchiser la société israélienne, ce qui est un truc pas facile à faire, mais quand même. Et il va y avoir énormément de manifestations, surtout à Tel Aviv, pendant des mois et des mois. Donc en fait, à ce moment-là, les refusniques vont prendre la parole, essayer de lier en fait leur cause à eux, et celle des anti-réformes judiciaires et anti-Netanyahou plus globalement.
Est-ce que tu peux juste rapidement nous dire un peu en quoi consiste cette réforme judiciaire ? Pourquoi est-ce qu'elle a polarisé les choses ?
Oui, alors c'est une réforme qui est apparue début 2023, soutenue par le gouvernement de Netanyahou, qui en fait vise à redistribuer les pouvoirs entre le Parlement et la Cour suprême israélienne en donnant quasiment tous les pouvoirs au Parlement. La Cour suprême, d'habitude, a des espèces de pouvoirs de veto, on peut dire ça comme ça, notamment sur les lois qui passent, sur les gens qui sont nommés. Et ce serait lui enlever, entre autres, ce pouvoir-là. Ça ferait que Netanyahou a un espèce de super 49-3 qui peut passer quand il veut. Évidemment, les Israéliens n'ont pas très bien réagi. Et puis, il y a le 7 octobre, qui est tout l'inverse, où en fait le truc retourne à 380, et finalement, bon bah, c'est la guerre, donc les gens ne veulent plus entendre parler de ne pas aller à l'armée. L'armée n'est pas tout de suite critiquée pour sa gestion du 7 octobre, contrairement au gouvernement, et du coup l'armée reste encore quand même les gens qui vont sauver le pays, etc. Donc il y a un truc très... si toi tu ne vas pas à l'armée, en gros t'envoies les autres se faire tuer à ta place. Donc c'est un discours qui est soudainement exclu du débat public.
Alors, ce dont peut-être on ne mesure pas trop, c'est que le service militaire, il est obligatoire.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas chez nous.
Et il dure très longtemps. C'est à peu près 2 ans chez les filles, à peu près 3 ans chez les garçons.
Et au-delà du fait qu'il y a un avant et un après-attaque du Hamas, c'est aussi le service militaire, si j'ai bien compris ton article, un marqueur social, ou en tout cas une façon d'entamer les discussions entre jeunes, enfin, ça identifie beaucoup les personnes selon ce qu'on choisit,
ouais.
C'est ça ?
En fait, c'est vrai que nous, on a du mal à l'imaginer, mais c'est un truc que tout le monde fait, tous, pendant 2 ou 3 ans. C'est quand même énorme, c'est comme si on faisait tous la même licence pendant 2 ou 3 ans, et qu'on s'y retrouvait tous. Donc forcément, c'est un très très gros truc pour les jeunes, déjà pour les jeunes lycéens, qui à partir de 16 ans prévoient ce qu'ils vont faire à l'armée. Parce qu'en fait, ils ont plein de tests qu'ils peuvent passer, d'épreuves, etc., selon quelle unité ils veulent intégrer. Il y en a qui veulent juste trouver une unité sympa pour pas être au combat pendant 2 ans, 3 ans. Il y en a qui s'en servent plus pour un peu démarrer leur carrière, parce que ça fait bien sur un CV, par exemple, d'avoir été dans l'unité intelligence, quoi, les services un peu de renseignement. Un des réfusniques m'a raconté que, par exemple, quand on arrivait à être dans une bonne unité de service de renseignement, en sortant, il y avait des grosses entreprises qui vous contactaient, genre Google et les grands de la tech israélienne. Et en plus, ça fait se rencontrer des jeunes qui ne se connaissaient pas avant, parce que ça mélange les postes, les régions, etc. Donc pour eux, c'est en temps de paix, entre guillemets, parce que ça n'existe jamais vraiment, mais ça peut être aussi presque sympa. Et les lycéens, ils sont assez excités d'y aller. Mais c'est vraiment leur première expérience d'adulte.
Tu étais déjà allé en Israël ?
Oui, j'y étais déjà allé plusieurs fois, dont une fois déjà pour Society, en 2022, à Jérusalem, pour parler d'un article sur la famille Bachiti, qui vit à Jérusalem, juste à côté de la mosquée Al-Aqsa, et qui est harcelée par les soldats israéliens parce qu'ils vivent dans cet endroit.
Tu parles de Jérusalem, là on est plutôt à Tel Aviv dans l'article qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que tu as vu le même pays ? Enfin, en tout cas le ressenti que tu as eu, comment tu...
Qu'en 2022 ?
Ouais.
Non, pas tout à fait quand même. Bien qu'à Jérusalem, de toute façon, c'est toujours très militarisé, très surveillé. Là, quand même, on arrive en Israël, à l'aéroport, il y a les portraits des otages partout. C'est pas plus difficile de rentrer dans le pays, mais on pose quand même quelques questions. Et les portraits des otages sont à l'aéroport, dans toutes les rues de Tel Aviv, dans toutes les rues de Jérusalem, dans les magasins, enfin vraiment partout. Et Tel Aviv ressemble un peu plus à ce qu'a été Jérusalem pendant longtemps, c'est-à-dire beaucoup de militaires et puis un peu un endroit... Après, Tel Aviv est plus politique parce qu'il y a plus de gens de gauche à Tel Aviv. Et donc, ça se mélange un peu entre les grandes affiches « Bring them home » sur les otages et des affiches anti-Netanyahou qui ont quand même été lancées il y a quelques mois. Mais après, les militaires partout, on en voyait déjà en 2022 et on en voyait déjà les années précédentes.
Quel genre de questions ils t'ont posé quand tu dis que quand tu arrives à l'aéroport ?
À l'aéroport, alors il y a un truc très bizarre en Israël que je me suis jamais expliqué, c'est qu'à l'aller, pose des questions tranquilles. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez où ? Vous dormez où ? Et au retour, par contre, c'est beaucoup plus intense. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez parlé à qui ? Moi, j'ai très vite dit que j'étais journaliste, donc en plus cette question-là s'est posée. Mais même pour les touristes, il y a un truc on regarde ce que t'as mis sur ton tampon. Ah, t'es allé au Maroc ? Pourquoi ? T'as de la famille ? Ah ouais, il s'appelle comment ? Enfin. Ça peut être assez long.
Ils t'ont demandé de leur montrer tes prises de notes ou...
Non. Non, j'ai... en fait, il y a une carte de journaliste israélien ou invité qui vient travailler en Israël en ce moment. On n'est pas tout à fait obligé de la demander, mais c'est plus pratique pour bouger dans le pays. Mais quand tu demandes cette carte, il faut faire la demande avant sur Internet, etc. Ils te demandent quand même ce que tu viens faire. Où tu vas aller, ce que tu vas traiter comme sujet. Bon, alors tu t'en sors généralement en étant un peu vague, mais moi j'étais clairement pas rentrée dans le sujet, et j'étais clairement pas rentrée dans le sujet de cet article-là en particulier.
Est-ce que tu as cherché à contacter l'armée ou les autorités, puisqu'il y a forcément ce pan-là, il y a le pan de ceux qui refusent d'y aller, il y a ceux qui organisent le service militaire.
Oui, j'ai pas essayé. Comment s'est passée la relation avec eux? J'ai essayé de ne pas avoir de relation avec eux, qui était mon but. Et ça s'est plutôt bien passé, puisque les gens qui délivrent la carte, c'est l'armée. Il faut aller la chercher à Jérusalem, mais bon, c'est un petit bureau. Là, on ne pose plus de questions. Mais avant d'arriver, tu ne sais pas si on va te poser des questions ou pas. Et je savais de toute façon, par les gens de Mesarvot, que l'armée ne communiquait pas sur les refusniques, ni sur le concept, ni sur les chiffres. Surtout que c'est le premier article que j'ai fait en arrivant. J'en avais quand même pas mal après, sur 10 jours, donc je voulais pas trop attirer l'attention tout de suite.
Est-ce que tu as une idée, même si le sujet est tabou, de combien de jeunes ça représente, les refusniques ?
Alors on n'a pas vraiment d'idée. Là par exemple, il y a eu Tal, Mitnik, Sophia Or, il y en a au moins une demi-douzaine qui ont décidé de refuser, mais qui l'ont pas encore fait parce que leur lettre n'est pas encore arrivée. Mais ce que c'est Mesarvot, c'est qu'il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus depuis 2023 et à nouveau depuis que Tal Mitnik est allé en prison. En tout cas, eux, ils voient plein de jeunes arriver parce qu'ils ont vu Tal Mitnik et Sophia Or se renseigner et décider de refuser. Donc je pense que l'augmentation, elle se verra plutôt dans la prochaine année, si vraiment elle a lieu. Mais sinon, on n'a pas trop de chiffres. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au-delà des gens qui refusent vraiment pour raisons politiques, il y a aussi à peu près 50%, je crois que c'est un petit peu moins de la moitié, qui finissent pas leur service ou qui se font exempter pour des raisons de santé ou psychologiques. Donc en fait, c'est assez paradoxal. C'est très 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 important dans la société israélienne. Mais c'est quand même un peu pardonnable de se faire exempter parce qu'on a les pieds plats, quoi.
Dans ceux que tu as vus, dans leur, je ne sais pas si on peut le discerner, mais dans leurs yeux, tu vois plutôt de la peur d'aller sur le thème, on va dire, guerrier, le service militaire, ou une vraie position philosophique de ne pas participer à ça.
Non, ils n'ont pas peur. Et même quand on parle de la prison... Ils ont bizarrement pas peur, alors qu'ils ont 17 ans, et que la prison, c'est pas super sympa en Israël. Mais non, c'est vraiment le fruit d'une réflexion politique. Et après, c'est vraiment la Gen Z qui sont hyper déterminés et qui se laissent pas vraiment déconcentrer par le moindre obstacle. C'est des jeunes qui travaillaient sur la question depuis déjà avant septembre 2023, puisqu'ils ont travaillé sur l'organisation de cette manifestation pendant plusieurs mois, et sur la lettre ouverte qui a été publiée et lue. Et c'est vraiment à l'image d'une génération qu'on voit en France, aux États-Unis, en Angleterre, sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir. Mais eux, ils l'appliquent à ce qui se passe chez eux. Et tu les sens vraiment sûrs d'eux.
Déterminés.
Oui.
Tu saurais nous dire s'ils appartiennent tous à, on va dire, une famille qui est très politisée ou très militante de base, ou alors si ça touche toutes les classes de la société israélienne ?
Il faut quand même une petite sensibilité à la base. Là, dans mon article, il y a deux jeunes que je suis un peu plus près. Et Ido, qui est le jeune garçon, en effet, il vient d'une famille de gauche avec des parents qui sont dans des ONG ou avocats pour les immigrés, etc. Donc, il sait quand même...
Sensible à la question.
Complètement. Et là, ses parents sont quand même beaucoup moins politisés. Elle y est un peu arrivée toute seule. Donc ça dépend, mais c'est pas pour rien que c'est quand même plus à Tel Aviv qu'ailleurs dans le pays. C'est-à-dire qu'à Tel Aviv, il y a quand même plus une culture politique de gauche. Je pense qu'on trouve moins de refusniques que dans le sud ou à Jérusalem.
Est-ce que tu parles dans l'article des objecteurs de conscience. Ces jeunes-là ne peuvent pas rentrer dans cette catégorie-là de gens qui refusent la guerre ?
Pas tout à fait. Ils ont essayé. C'est-à-dire que Tal Mitnick, avant d'aller en prison en tant que refusnik, c'est-à-dire refusé pour des raisons politiques, il a essayé de passer devant le comité d'objecteurs de conscience. La première démarche est la même, c'est-à-dire qu'on reçoit sa lettre de convocation et on se pointe en disant non. Mais il y a un comité où vous êtes interrogé longuement, où votre famille, voire vos amis, sont aussi interrogés longuement. Et il faut prouver qu'on est pacifique. De façon philosophique et conceptuelle, on est contre la non-violence, contre toute guerre dans le monde, etc., sans parler de raisons politiques. Et si les examinateurs, entre guillemets, estiment que tout ça a l'air vrai et que ce que racontent vos parents, etc., sont cohérents, vous pouvez être exempté sur cette raison un peu philosophique. Mais ça arrive très rarement, parce que c'est très difficile de justifier de son pacifisme sans parler de situations concrètes, surtout en Israël. Si on échoue et qu'on dit toujours qu'on refuse toujours d'aller à l'armée, dans ce cas-là, on devient refusnik et on va en prison militaire.
T'as eu des difficultés là-bas, dans ton reportage, la façon de rencontrer les gens ou d'avoir les réponses que tu souhaitais ?
Pas vraiment. Je suis passée du coup par Mesarvot. Comme c'est quand même dans leur intérêt de promouvoir la question, ça n'a pas trop posé de problème. À part une complication culturelle dans ces pays, mais c'était pareil en 2022, c'était pareil quand je suis allée en Égypte pour Society ou en Turquie.
C'est-à-dire qu'on est sur
des gens qui n'aiment pas trop prévoir en avance.
D'accord.
Oui. Ni les horaires, tout ça, c'est pas important. Je pense qu'il y a des gens à qui ça convient très bien comme façon de faire un reportage. Moi, ça me crispe.
D'accord.
Donc, clairement, moi, j'avais 10 jours, à peu près 8 articles à faire. Donc, écoute, on va se donner des horaires et puis on va le prévoir en avance quand même. Mais une fois qu'on a réussi à parler aux bonnes personnes et qu'on a réussi à capter quel jour de la semaine les Israéliens répondent, parce que c'est pas évident, la réponse c'est le dimanche.
Le dimanche, ils répondent.
Je sais pas pourquoi, le dimanche, en fait, c'est le début de leur semaine. Et c'est comme être au taquet le lundi, quoi.
D'accord.
Voilà, donc si vous voulez parler à un Israélien, il faut l'appeler le dimanche. J'ai passé quelques heures avec chacun. Avec Ido, c'était chez lui avec sa mère. Donc on a aussi un peu eu le temps de parler à sa mère, ce qui était assez intéressant. Mais nous, on a essayé de faire au plus vite, parce qu'ils sont quand même, très occupés. Ils sont encore au lycée, techniquement, en terminale. Et après, non, j'ai écrit le papier assez rapidement, mais ce que j'aime bien, en vrai, écrire les papiers assez rapidement quand t'es encore bien dans le thème.
Il y a un écueil dans lequel tu voulais absolument pas tomber sur ce sujet-là, d'autant plus qu'on est sur, si on le voit de façon plus globale, le conflit israélo-palestinien.
Ouais, sujet délicat.
C'est un sujet délicat.
En effet. Je voulais pas tomber dans un truc, mais qui est aussi valable pour d'autres attentats. Le 7 octobre est quand même un élément pivot de l'article, donc il fallait en parler avec les deux. Mais je voulais pas qu'on tombe dans un truc où on décrit trop ce qui s'est passé. Je voulais qu'on reste un peu subtil sur les événements du 7 octobre. Bon, évidemment, c'est décrit, mais voilà, je ne voulais pas qu'on en fasse des tonnes sur ça.
Parce que certains de ces jeunes ont perdu aussi des amis dans ces attaques.
Ouais, ouais. Et là, en l'occurrence, a perdu des amis au festival, dans le désert. Ce qui est un peu étrange aussi, c'est que les gens qui vivent souvent dans les kibboutz du Sud sont souvent des gens de gauche, qui participent à beaucoup d'initiatives avec des gens de Gaza et de Cisjordanie. Et c'est aussi des endroits de vacances. Beaucoup, beaucoup d'Israéliens connaissaient au moins des gens qui étaient là-bas. La famille d'Ido connaissait beaucoup de gens là-bas et tout le monde a réussi à s'en sortir. Mais et là, ses amis, c'était pas le cas dans le festival. Mais en fait, comme quand on écrit sur le 11 septembre ou le 13 novembre, je trouve que c'est des événements où il ne faut pas en rajouter 3 tonnes. Il faut rester un peu à distance.
Quand on refuse d'aller donc au service militaire obligatoire, donc on risque et puis on va en prison, surtout quand on est jeune. Est-ce qu'on peut y aller plusieurs fois? Et est-ce qu'il y a un temps limite où on se dit, bon, bah maintenant c'est bon, tu peux retourner à la vie normale?
Non, alors ce que Ella d'ailleurs m'a précisé, c'est que c'est aussi pour ça que c'est pas vraiment légal d'un point de vue des lois internationales, parce que normalement on a un crime, une peine qui correspond. Là, c'est pas vraiment un crime et il n'y a pas vraiment de peine officielle qui correspond. Donc ce qu'on a vu les dernières années, c'était un refusnik refuse, il va en prison, il est condamné à une première peine qui peut être 10 jours, 2 semaines, quelque chose comme ça.
Ça ne va pas au-delà d'un trimestre.
Ça peut, mais en fait, avant c'était plus dans ces eaux-là. Il ressortait, il recevait une lettre qui l'invitait à se représenter à l'armée, et s'il refusait, ça recommençait. Et généralement, c'était 3-4 fois maximum, quelque chose comme ça. Mais ce que Mézarvot m'a dit, c'était que souvent, tout cumulé, ça ne dépassait pas les 100 jours de prison. Là, ce qu'on voit depuis la guerre du 7 octobre, c'est que Tal Mitnick, première peine, il a pris 30 jours. Deuxième peine, 30 jours aussi. Et troisième, 45, je crois. Il n'est pas encore sorti de sa troisième peine. Donc, il pense que l'armée essaie de faire pression sur ces jeunes-là pour qu'il y en ait moins, pour que ça ne devienne pas un trop gros phénomène. Donc, a priori, il peut encore y retourner. Il n'y a pas vraiment de limite, c'est juste qu'à un moment, l'armée est un peu occupée, qu'ils n'ont pas que ça à faire de s'occuper de ces jeunes-là qui ne veulent pas venir. Mais là, ça devient plus politique, donc on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'ils vont lâcher l'affaire.
Ils vont dans des prisons spéciales ?
Ils vont dans des prisons militaires, oui.
D'accord, au milieu d'autres...
Soldats. Ce qui, d'un côté, est moins flippant pour eux que les prisons de droit commun. Ça n'a rien à voir avec les prisons où il y a des prisonniers palestiniens. Ils sont quand même beaucoup mieux traités. Mais ce qu'ils me disaient aussi, c'était qu'ils n'étaient pas forcément rassurés pour leur ami Tal Mitnick, parce qu'il était quand même entouré de soldats qui n'ont pas forcément une très bonne opinion des refusniks.
Dernière question. Que dirais-tu pour convaincre un monsieur, une madame, de lire cet article, toujours en kiosque ?
Qu'est-ce que je dirais ? Je pense que je leur dirais que c'est une bonne occasion d'entendre des gens qui sont israéliens et qui sont pour la paix, qui est quand même une catégorie qu'on n'entend pas beaucoup à chaque guerre, parce que c'est vrai que pour les médias, c'est pas forcément la partie la plus intéressante. Quand on voit qu'il y a des Israéliens qui sont d'extrême droite et qui prévoient déjà leur maison qui vont se construire à Gaza, je comprends que ce soit tentant comme article, évidemment, parce que c'est ultra intéressant. Mais ça existe, les Israéliens pour la paix, surtout des jeunes, il y en a quand même de plus en plus.
Ces jeunes-là, ils arrivent à dessiner le futur de ce conflit-là. Est-ce qu'ils voudraient deux États, une cohabitation? Comment
c'est
ça se passe?
Un des paradoxes de cette guerre, c'est que ce qui s'est passé le 7 octobre est horrible, la guerre à Gaza est horrible, et ce qui en ressort quand même, c'est la solution à deux États, qu'on pensait morte et enterrée depuis belle lurette, notamment grâce aux efforts de Netanyahou pour l'enterrer. Alors évidemment, il y a une grande partie de la population israélienne qui est quand même dans une quête de vengeance et qui ne parle pas du tout de paix en ce moment. Mais il y a quand même cette idée qui ressort que ça suffit, en fait, au bout de 80 ans de conflits, qui partent, qui reviennent et qui sont toujours plus violents, et qu'en fait, il faudrait peut-être revenir au moment où on a été le plus proche d'une paix à peu près viable, qui était la solution à deux États, au retour des accords d'Oslo. Ils ont un argument qui est quand même très solide, que c'est le camp le plus fort de tendre la main à l'autre, et donc ce serait à l'Israël de vouloir faire la paix et de mettre les choses en place pour que ce soit possible.
Merci Hélène Coutard d'être venue à notre micro et de nous avoir apporté tes éclairages sur ce reportage qui s'appelle « Avec les refuseniks » de Tel Aviv, publié dans le 227e numéro du magazine Society, qui est toujours en vente jusqu'au 10 avril 2024 chez toutes celles et ceux qui vendent encore de la presse. C'est à lire aussi sur l'appli Sopress ou sur l'adresse suivante abonnement@sopress.net. Olon vous embrasse et vous dit à dans 15 jours pour un nouvel épisode.